18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes.
Ce devrait être un tournant dans la campagne de vaccination. Vous pourrez bientôt vous faire vacciner par votre généraliste.
Sauf que ces derniers, qui étaient ultra motivés au départ, émettent aujourd'hui quelques réticences.
Il a passé 25 ans à la tête de la deuxième ville de France. Jean-Claude Gaudin est en garde à vue. Il aurait favorisé certains de ses collaborateurs les plus proches. La mairie les payait alors qu'ils auraient dû être à la retraite.
Quatre nouveaux venus au sein du fameux conseil scientifique, parmi eux un vétérinaire. Tiens.
Au sommaire également, la ministre de l'enseignement supérieur qui veut mener une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Les intéressés sont vent debout.
L'amendement du gouvernement permettant le vote par anticipation pour la présidentielle, la commission des lois du Sénat dit non.
Et puis le foot, le Barça a bien du mal à digérer la rouste que lui a infligée le PSG hier soir. La bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,36% à 5 765 points.
Le retour de la pluie, c'est le point météo avec Anissa Adali. D'ailleurs, je suis surpris que vous n'ayez pas votre maillot du PSG, vous, ce soir, pour fêter la victoire.
Ah non, bah je l'avais hier
non
soir.
Ah oui,
pas
d'accord.
Ce soir,
j'ai raté, alors.
Non, j'aurais dû le mettre aujourd'hui. Alors, le temps, vous le disiez, retour de la pluie demain. Demain sera certainement la journée la moins belle de la semaine, avec une perturbation qui va traverser le pays, avec par endroits des pluies assez fortes. Les températures restent, elles, très douces. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était une demande forte des généralistes, être impliqués dans la campagne de vaccination. Ce sera le cas à partir de jeudi de la semaine prochaine, le 25 février, puisqu'ils pourront commencer à piquer dans leur cabinet avec le vaccin d'AstraZeneca.
Oui, encore faut-il qu'ils se soient inscrits au préalable sur les listings des pharmacies. Ils avaient jusqu'à ce soir 23 heures pour le faire.
Et contrairement à ce que l'on pouvait penser, Victor Dolande, eh bien, ils ne se sont pas bousculés.
Oui, ils auraient eu l'information un peu tardivement, vendredi dernier, alors que la date butoir pour les commandes, c'est ce soir. Au total, 700 000 doses seront disponibles dans 5 à 6 jours. C'est donc 70 000 flacons du vaccin AstraZeneca, un seul par médecin généraliste la semaine prochaine. Mais selon nos informations, 17 000 médecins de ville ont passé des commandes sur un peu plus de 50 000 professionnels. Ça fait 1 sur 3. Jacques Battistoni, président du syndicat médecins généralistes de France, avance deux raisons pour expliquer ce faible engouement.
Premièrement, parce que le vaccin est un peu moins efficace que le vaccin Pfizer. Et ils se disent finalement, est-ce que c'est pas mieux d'attendre d'avoir d'autres vaccins? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis aussi, vous avez entendu cela à plusieurs reprises, dans les hôpitaux notamment, les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes.
Je rappelle que les médecins généralistes devront sélectionner dans leur patientèle les personnes de 50 à 65 ans qui ont des facteurs de risque, hypertension, problèmes cardiaques, malades du cancer et personnes obèses. Ce sont ces personnes qu'ils vaccineront en priorité avec le vaccin AstraZeneca à partir donc de la semaine prochaine. Sauf qu'au rythme des commandes passées, ils ne vaccineront pas grand monde dans leur cabinet.
Merci Victor Dolande du service Société d'Europe 1.
Et notez qu'aujourd'hui, l'Union européenne a conclu un contrat avec Moderna pour acquérir 300 000 doses supplémentaires et que l'Agence européenne du médicament se penche, elle, en ce moment, sur la demande de mise sur le marché du vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson.
Oui, qui ne nécessite qu'une seule piqûre d'ailleurs, qu'une seule dose, à la différence des autres. Dans l'actualité également ce soir, quatre nouveaux venus au sein du Conseil scientifique.
Oui, quatre nouveaux membres qui viennent renforcer donc cette instance consultative chargée de conseiller le gouvernement sur la gestion de l'épidémie, une infectiologue, une pédopsychiatre, un gériatre et un vétérinaire. Thierry Lefrançois qui explique quel sera son rôle.
Quand on se pose des questions sur la transmission, quand on se pose des questions sur la façon de gérer cette épidémie, cette pandémie, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va pouvoir à la fois apporter sa propre perspective et puis en même temps faire le lien avec des spécialistes des coronavirus sur les animaux, des spécialistes de la gestion de crise dans le domaine santé animale, parce que le ministère de l'Agriculture a été confronté à plein de crises à travers l'histoire, beaucoup, j'allais dire, plus pratiquement que le ministère de la Santé. Donc voilà, c'est le système de pont donc, qui va accélérer ou augmenter l'efficacité, à mon avis, et une capacité de chercher les réponses qu'on peut se poser.
Thierry Lefrançois, donc l'un des quatre nouveaux membres de ce conseil scientifique avec Mathieu Charrier.
Et alors que la situation épidémique reste stable et que les courbes sont les mêmes, en légère baisse, sont même en légère baisse, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a quand même tenu à mettre en garde les Français.
La pression hospitalière reste extrêmement forte, a-t-il dit, et la situation est si fragile qu'un rien peut la faire changer.
18h04 4. Dans la suite du journal, on vous le disait en titre, Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, en garde à vue.
Au lendemain de la perquisition de son domicile, il est entendu dans le cadre d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Alors que lui est-il reproché exactement, Justin Morin ?
Le parquet national financier s'intéresse aux rémunérations octroyées par Jean-Claude Gaudin à son premier cercle, ses plus proches collaborateurs, dont certains ont continué leur activité alors qu'ils avaient dépassé l'âge légal de la retraite. Sont cités par exemple Claude Bertrand, le directeur de cabinet historique de l'ancien maire, lui aussi placé en garde à vue aujourd'hui selon nos confrères de la Provence. D'autres noms moins connus étaient maintenus dans leur fonction en tant que chargé de projet pour le cabinet de Jean-Claude Gaudin. C'est le cas par exemple de Solange Moll, 82 ans au moment de son départ en 2017, décédée depuis. Une autre était en charge des relations publiques avec plus de 77 ans. Les enquêteurs vont chercher à savoir quelles étaient précisément leur mission. L'enquête est ouverte depuis 2019 et ce qui est intéressant, c'est que cette même année, un rapport de la Chambre régionale des comptes avait aussi épinglé la gestion de la ville par Jean-Claude Gaudin. 4 pages sont consacrées à ses proches collaborateurs, employés, je cite, en dehors de tout cadre légal. En tout, une quinzaine de noms sont cités. Selon le rapport, le préjudice est estimé à 1 million d'euros pour les contribuables marseillais.
Merci Justin Morin du service police et justice d'Europe 1.
La cour d'assises de Paris est toujours en train de délibérer sur le cas Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État jugé en appel, vous le savez, pour viol et agression sexuelle sur 2 anciennes employées de sa commune de Draveil.
Il avait été acquitté en première instance, tout comme son adjointe. On y reviendra dans le journal de 19h. Les présidents d'université vont debout après les propos de la ministre de l'Enseignement supérieur.
Oui, Frédéric Vidal, qui a donc annoncé son intention de commander un rapport sur l'islamo-gauchisme au sein des universités françaises.
Elle souhaite en effet distinguer ce qui relève de la recherche académique et de ce qui relève du militantisme. Pour Jean-Pascal Simon, qui est secrétaire général de SUP Recherche UNSA, syndicat de l'enseignement supérieur, c'est tout simplement aberrant.
Je ne comprends pas qu'une ministre puisse dire cela. On est encore en train de mettre le feu aux universités, de jeter le doute et la défiance sur un certain nombre d'universitaires, notamment dans les sciences humaines et sociales, et puis même sur le terme d'islamo-gauchiste. C'est un concept qui est quand même largement discuté, souvent utilisé pour stigmatiser, qui a tendance plutôt à renforcer des tendances identitaires dans notre société et pas du tout un dialogue apaisé. Aujourd'hui, les universitaires ont besoin davantage de soutien, qu'on assure qu'ils aient leur liberté académique. C'est un des principes de l'université, c'est-à-dire que les universitaires ont le droit de s'exprimer sur tout, de faire des recherches sur tout, pour peu qu'ils respectent une attitude critique sur les travaux qu'ils font. Aujourd'hui, dans une situation compliquée, on n'a pas besoin d'une polémique supplémentaire en ce moment.
Jean-Pascal Simon du syndicat SUP Recherche UNSA, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas.
Europe 1, Julien Bugier.
18h07, restez avec nous dans quelques secondes. Les sénateurs qui torpillent l'amendement du gouvernement destiné à permettre le vote par anticipation à la prochaine présidentielle, on vous explique tout.
Hier, c'est le PSG qui a torpillé le Barça. On sera à Barcelone.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite du journal. C'est donc l'amendement surprise sorti du chapeau par l'exécutif, celui déposé par le gouvernement au Sénat pour permettre le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de l'an prochain.
Autrement dit, comme aux États-Unis par exemple, ceux qui le souhaitent pourraient voter la semaine précédant le scrutin. Ce serait du jamais vu en France. Claudia Bertram, vous êtes au Sénat. C'est mal parti cet amendement. Les sénateurs l'ont déjà rejeté largement en commission aujourd'hui.
Oui, premier test ce matin, premier tollé, la commission des lois a massivement rejeté cet amendement. Déposé hier au dernier moment, le président des LR Bruno Retailleau y voit une manœuvre politique.
Ça arrive au bout de l'examen d'un texte sans le contrôle du Conseil d'État, alors qu'il s'agit quand même de l'élection du président de la République. Donc ça n'est ni une méthode. Et ça sent la magouille finalement.
Une méthode qui fait tiquer jusque dans la majorité. Écoutez le sénateur LREM Alain Richard.
Je reproche au gouvernement d'avoir introduit ce texte de façon trop improvisée.
L'amendement doit encore être débattu demain en séance publique. Et pas de doute pour le centriste Hervé Marseille, il devrait à nouveau être rejeté.
C'est quelque chose qui aurait pu être discuté, mais la façon dont le gouvernement s'y est pris annule toute discussion. Il n'y aura pas photo demain. Et donc, retour à l'envoyeur.
S'il est rejeté, son parcours législatif prendra en théorie déjà fin. Seul moyen de porter à nouveau le vote par anticipation dans le débat, redéposer un nouveau texte de loi. La difficulté, c'est que le gouvernement s'est mis la classe politique politique ado et même l'AMF, l'Association des maires de France. Un conseiller ministériel le reconnaît. Techniquement, il y a toujours une voie explorable. Politiquement, j'en suis moins convaincu, dit-il.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
La mise au point du Premier ministre. Il n'y aura pas de zone sans contrôle d'identité, a-t-il dit cet après-midi devant le Sénat.
Jean Castex qui réagissait au propos de la défenseure des droits. Cette dernière proposait une expérimentation dans certains quartiers parce que, dit-elle, un jeune perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlé. Le ministre de l'Intérieur avait déjà opposé une fin de non-recevoir à cette proposition.
Le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, hospitalisé après un malaise.
Il a 99 ans, hospitalisation par précaution. Il va rester quelques jours en observation quand même. Hospitalisation qui, on le précise, n'est pas liée au Covid. Le foot, Paris, parade. Barcelone encaisse le choc. Vous l'avez vécu en direct hier soir sur Europe 1. Le PSG s'est imposé 4 buts à 1 en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, alors évidemment, on ne va pas s'emballer, on va rester prudent car l'histoire nous a prouvé que... Il pouvait y avoir des surprises au match retour. Il y a encore ce match retour, donc le 10 mars, Henri de Laguéry, vous êtes notre correspondant à Barcelone. Est-ce que les Catalans y croient encore, eux ?
Non, écoutez, aujourd'hui, personne n'y croit. Alors, ok, d'ici trois semaines, peut-être que la méthode Coué fonctionnera, mais les supporters sont lucides. Le Barça n'est plus le très grand club qu'il a été. Ce qui s'est passé hier soir n'est pas un accident. C'est la 4e saison de suite que le Barça s'effondre en Europe. Avant le PSG, il y a eu la Roma, Liverpool et le Bayern. Écoutez, Dani et Laura, ils sont désabusés.
Je m'y attendais. Ça, c'est Champions League. Il y a des joueurs comme Mbappé qui font la différence. Mais bon, pour le match retour, j'ai aucun espoir.
Je crois que le pire, c'est que je suis pas en colère. On s'y attendait un petit peu. C'est vrai qu'un 4, quand même, chez nous, c'est dur. Il y a le match d'ici 15 jours qui va être du pareil au même. Et puis, on voit pas la fin, celle de PSG qui va casser fil.
Voilà, donc ici, on n'envisage pas une remontada des Catalans à Paris. Beaucoup ont l'impression d'ailleurs d'avoir assisté hier à un passage de témoin entre Messi et Mbappé. Le Français est entré dans une nouvelle dimension en Espagne depuis son exploit hier soir. Enfin, en plus du coup de massue sportif, une probable élimination en 8e de finale est une nouvelle épine dans le pied d'un Barça qui traverse une crise économique inédite.
Merci beaucoup Henri de Laguéry en direct de Barcelone. En tennis, on a ce qu'on mérite, dit ce soir Rafael Nadal après son élimination de l'Open d'Australie en quart de finale. Après avoir mené 2-7-0 contre le grec Tsitsipas. Tsitsipas qui lui rejoint le russe Medvedev en demi-finale. Et puis attention, crise sanitaire oblige, Céline Dion reporte de nouveau d'un an sa tournée européenne et notamment son passage en France. Les billets achetés pour les concerts de 2020 et de 2021 restent valables pour les nouveaux shows qui seront reprogrammés en 2022 et vous pouvez aussi vous les faire rembourser si vous préférez jusqu'au 31 août.
Bon, vous voyez, rien de perdu pour aller voir Céline Dion.
Oui,
merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo avec Anissa Adadi qui nous a rejoint en studio. Une petite dégradation demain au programme.
Oui,
avant un week-end
avant
ensoleillé.
Avant un week-end printanier, oui. Je vous l'avais dit ça, je me suis engagée début de semaine. Alors, nous avons effectivement demain une perturbation pluvieuse qui va traverser toute la France. C'est d'abord le quart nord-ouest qui est touché demain matin avec des Pays de la Loire jusqu'aux frontières belges de la pluie. Sur la façade est, le temps reste calme et printanier. Et puis, au bord de la Méditerranée, nous avons toujours, comme aujourd'hui, beaucoup d'entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper. Ces nuages bas seront tenaces au bord de la Grande Bleue. Dans l'après-midi, la perturbation avance, avec cette fois-ci de la pluie de la Gironde jusqu'à la Bourgogne, en passant par le centre Val-de-Loire, avec par endroits, et notamment dans le centre-ouest, des pluies assez fortes, avec des coups de tonnerre. Et puis à l'arrière, la perturbation sur la Bretagne et la Normandie, c'est le retour de timides éclaircies au bord de la Méditerranée. Le temps reste assez humide. Les températures, elles sont stationnaires demain avec 0 degré à Nancy, 3 à Lyon, 6 à Paris, 11 à Biarritz le matin et puis au meilleur de la journée, nous aurons 10 degrés à Dunkerque, 11 à Lille et Strasbourg, 12 pour Paris, 16 à Besançon et Toulouse, 18 à Clermont-Ferrand et ça grimpe encore dans le sud-ouest avec 20 degrés à Mont-de-Marsan et 21 degrés pour Pau.
La bascule printanière est en marche.
Ouais, merci. C'est bien parti. Ouais.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo, 18h30 et 19h.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes, les enfants français? On entendra l'appel solennel d'un député. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h17, il lance un appel solennel pour rapatrier les enfants français prisonniers en Syrie. Cet invité, c'est le député Pierre Morel-Aluissier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député UDI de la première circonscription de la Lozère et vous lancez donc cet appel avec votre collègue Pierre Laurent pour rapatrier en urgence les enfants français de djihadistes qui sont actuellement détenus dans des camps, dans des prisons en Syrie. 200 enfants qui sont pour la plupart prisonniers avec leur mère. Quel âge ont-ils d'abord ces enfants ?
ça va de l'âge de 6 mois à l'âge de 2, 3, 4 ans.
De l'âge de 6 mois.
Oui.
Donc ce sont des enfants qui sont nés en détention.
Il y en a qui sont nés.
Et qui sont détenus, dites-vous, dans des conditions absolument abominables depuis 2 ans.
Ça fait 2 ans, à peu
près. 3 ans pour certains.
Pour certains, oui, dans des conditions qui ne correspondent pas à la vie normale d'un enfant. Et ils sont marqués à vie, d'ailleurs.
Mmh.
Et le problème, c'est que si on ne fait rien, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ces enfants qui vont connaître la misère pourraient se retrouver dans 3-4 ans, enfants soldats. Et après, ouais, on s'étonnera qu'ils viennent faire des choses dans certains pays.
Monsieur le député, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, qu'on avait un peu oublié, c'est vrai. Pourquoi vous, vous avez décidé de lancer cet appel ?
J'ai été contacté par des avocats, notamment Marie Dosé, qui m'a fait part des difficultés.
Parce que je pose la question parce que vous êtes député de Lozère.
Oui.
La Lozère n'est pas un territoire qui est pourvoyeur, entre guillemets, de djihadistes. Hein. On pense à Trappes, on pense à, d'ailleurs, certains coins ruraux, hein, la Bretagne notamment, mais pas forcément la Lozère. Et on se dit, pourquoi ce sujet vous touche, vous, particulièrement ?
Il me touche parce que ça fait longtemps que je suis député. Et un député est un citoyen engagé, qui est sollicité par beaucoup de choses.
Mmh.
Des reconduites à la frontière. Dans le département de la Lozère, nous avons des étrangers qui peuvent être en situation irrégulière. On intervient pour essayer de trouver des solutions parfois humaines. Là, c'est une question d'éthique personnelle sur des enfants qui sont en danger, des avocats qui essayent de faire des choses. Le Conseil d'État ne bouge pas, les juges civils et judiciaires ne bougent pas. À un moment donné, Marie Dosé dit « Quand il n'y a pas de procédure juridictionnelle possible, il faut écrire un bouquin ». Elle a fait un livre sur les victoires de Daesh, parce que plus on est faible, plus Daesh continue à exister.
Oui.
Et dans ces camps, il se passe des choses inavouables, et ce sont des enfants. La
C'est
France.
C'est-à-dire, quand vous dites des choses inavouables?
Mais ils voient la prostitution, ils voient les viols, ils voient la famine, ils voient des maladies, il y a des morts. Vous vous rendez compte, des enfants d'un an, alors peut-être 6 mois, 1 an, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans,
oui,
l'enfant est marqué à vie.
Et vous, vous dites, un, d'abord, ce sont des innocents, et ce sont surtout des ressortissants français. Donc ils ont le droit à la protection du territoire national et de l'État français, en quelque sorte.
La France a signé toutes les conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
Oui.
La France, il y a le défenseur des droits qui a émis des avis. Tous les organismes internationaux ou européens ont émis des avis concordants. Il faut rapatrier. Et la France ne le fait pas.
Et pourquoi, à votre avis ?
Le président, j'ai été voir la conseillère juridique du président de la République. Elle nous a dit qu'il y a 2 thèses. La première, c'est au cas par cas, dans certaines situations, et d'autres disent qu'il ne faut rien faire. Parce que faire revenir ses enfants, ça peut être, on ne sait pas qu'en faire. Mais 200 enfants français, placés dans des services AZE du département, vous savez, les services sociaux,
oui,
du département.
Oui.
Ça fait 2 enfants par département.
Oui.
Est-ce que la France n'est pas capable de prendre en charge ses enfants ?
Monsieur le député, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on est capable de prendre en charge et d'assurer un suivi, et quel suivi psychologique, d'enfants qui ont vécu des horreurs et qui sont peut-être pour certains préconditionnés? C'est ce qu'on entend beaucoup dans l'opinion publique et dans l'opposition.
La question est légitime, mais quand même, la France, État de droit, pays des droits de l'homme, est incapable de prendre en charge, alors même que le président a déclaré en 2019 les enfants...
Oui.
Quels que soient les ressortissants, dès lors qu'ils sont français, on s'en occupe. Mais banco, faisons-le. Il y a d'autres pays qui le font. La Finlande l'a fait, l'Allemagne est en train de le faire.
Les autres le font.
Mais d'autres pays récupèrent. Oui. On me dit, ça peut mettre en danger des militaires français. Enfin, franchement, quand même, affréter un avion, récupérer 200 enfants, les maires sont d'accord. Les maires savent qu'elles sont sous contrôle international, qu'elles sont sous mandat. Elles savent qu'elles seront arrêtées, incarcérées. Elles disent « préserver les enfants ». Là, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui me fait réagir.
Oui.
C'est une question d'humanité.
Et on peut, monsieur le député, rapatrier les enfants sans rapatrier les mamans?
Elles sont d'accord.
Elles sont d'accord.
Elles sont d'accord. Elles le demandent.
Elles sont d'accord pour laisser partir leurs
enfants. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, on en a récupéré 35. Et dans certains cas, on a cassé des fratries.
Oui.
D'ailleurs, on prive la maman, le frère, la sœur d'un enfant. Parce que l'enfant, peut-être, est en difficulté plus prononcée. Non, c'est inhumain ce qui se passe.
Vous avez parlé, j'imagine, à des associations, au suivi pédopsychologique qui peut être mis en place pour ces enfants. Est-ce que vous vous êtes forgé, monsieur le député, une conviction ? Est-ce que ces enfants, pour les plus âgés, est-ce qu'ils sont, pardon de le dire ainsi, mais c'est une question qui se pose, est-ce qu'ils sont récupérables ?
Ils sont récupérables.
On en est sûr de ça ?
Ils sont récupérables, ce d'autant que j'ai été faire des missions au Timor oriental à l'époque, il y a une quinzaine d'années, sur la notion d'enfant-soldat.
Oui.
enfants soldats, à partir de 5-6 ans, ils ont appris le pouvoir avec l'arme. Ils ont tout, l'argent, la prostitution, ils ont tout, les femmes. Un enfant encore en bas âge, on peut le récupérer. Et ça serait tout à l'honneur de la France de le faire et du président de la République. Et je demande à tous les députés, à tous les sénateurs, interrogez-vous, c'est un problème de conscience à un moment donné.
Oui, les grands-parents, certains grands-parents sont aussi prêts à les récupérer. Oui. Je lisais par exemple le cas de Marc et Suzanne, dont les quatre petits-enfants, sont prisonniers dans un camp en Syrie parce que leur fille, je crois, s'est radicalisée. Elle est partie rejoindre un homme radicalisé également, qui est devenu... djihadiste, il a été condamné à mort, elle est prisonnière dans un camp avec ses quatre petits-enfants. Ils ont été sur place, ils ont tenté de les récupérer et ils n'y parviennent pas.
Non, parce que le gouvernement français
bloque. Vous connaissez ce cas ?
Oui, je connais ce cas. Je les ai rencontrés encore hier dans une rencontre globale avec les familles. Ce sont des gens très bien, ce sont des gens qui sont victimes, qui disent « ma fille, mon fils ont commis des erreurs ». Mais là, on est sur le cas d'enfants, c'est ça. Et encore une fois, la France a signé toutes les mesures, toutes les conventions internationales de protection de l'enfant. Pourquoi ne pas prendre une position définitive ? Qu'est-ce que c'est pour un pays que de récupérer 200 enfants ?
Comment vous expliquez que la France et le président de la République, qui est un humaniste, ne prennent pas la décision ? J'entends qu'il y a deux lignes en ce moment qui s'opposent à l'Élysée, mais ne prennent pas la décision de rapatrier ces enfants ?
Je crois qu'il y a... une différenciation entre ce que le ministère de la Défense dit, c'est dangereux pour nos militaires français.
Pourquoi c'est dangereux pour les militaires français ?
Parce qu'ils considèrent, certains considèrent qu'ils ne peuvent pas aller au Kurdistan parce que c'est dangereux, il y aura des affrontements, il risque d'y avoir des morts. D'autres pays le font.
Oui.
Le ministère des Affaires étrangères, on tourne la tête par rapport à ça. C'est pas d'actualité, c'est pas grave, et puis tant pis, elles ont commis cette erreur, tant pis pour les enfants. Moi, je ne me résous pas à ce « tant pis pour les enfants ».
Vous êtes indigné.
Oui, ils sont résignés à cela et moi, je m'indigne parce que les mêmes qui, aujourd'hui, ne bougent pas, lorsque dans 3-4 ans, on aura peut-être des enfants soldats qui viendront dans des démocraties,
parce que
peut-être
vous
en France.
Vous pensez que c'est comme ça que ça va se finir s'ils restent là-bas, ces enfants-là ?
Mais les poches de Daesh existent toujours. Il y a des femmes qui sont récupérées et il y a des enfants qui vont être endoctrinés. Donc, c'est dangereux. On ne prend pas la décision aujourd'hui, on va être obligé peut-être de la subir dans 4 ou 5 ans.
J'entends aussi dire que dans ces camps, il y a d'autres femmes qui sont irakiennes, qui sont syriennes, qui disent à ces femmes françaises, ne laisse pas partir tes enfants, garde-les dans le camp, car ce sont les enfants du djihad.
Mais vous vous rendez compte, la pression qu'il y a, les menaces permanentes, c'est que tout est... Il y a de la drogue, il y a de l'argent sale qui circule, C'est difficile à expliquer la réalité de ce qui se passe dans ces camps.
Vous êtes aujourd'hui, monsieur le député, deux parlementaires à avoir lancé cet appel. J'allais dire seulement deux parlementaires. Est-ce que vous pensez que cet appel peut réunir d'autres députés ?
Écoutez, il y a 7-8 mois, j'avais fait une déclaration liminaire à la commission des lois, dont je suis membre. Et l'ensemble de la commission s'était stoppé dans un silence total, avec des larmes aux yeux. J'ai cru l'électrochoc, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, je mets tout le monde devant ses responsabilités. Nous sommes des hommes et des femmes, 577 députés, 300 et quelques sénateurs. Il y a eu des appels téléphoniques ce matin. On m'a dit le combat est légitime. J'espère que ça va faire bouger les choses.
Car aujourd'hui, on le rappelle, ce sera les derniers mots de cette interview, la doctrine, c'est au cas par cas. Vous évoquiez le retour de 35 enfants, je crois qu'il y en a eu 7 là récemment en janvier, donc c'est au cas par cas.
Est-ce que vous
comprenez pourquoi dans quel cas on peut les rapatrier et dans tel autre on ne peut pas le faire ?
Non, parce que nous ne pouvons pas, on n'a pas les critères sur lesquels ces enfants...
Vous ne les connaissez pas ?
On ne les connaît pas, l'administration ne le dit pas, et on casse même des fratries, donc on ne comprend plus ce qui se passe.
Oui. Bien, merci infiniment monsieur le député Pierre Morel-A-L'Huissier d'avoir été ce soir notre invité pour évoquer cette question difficile, sensible, chacun se fera son avis du retour des enfants français détenus, notamment en Syrie. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel des titres et le débat des grandes voix. Éric Zemmour, tiens, il serait par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, en plus d'être polémiste. On en parle beaucoup en ce moment. On en débattra donc avec les grandes voix tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Quasiment 18h30, vous êtes en direct dans Europe Soir sur Europe 1. Le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin, alors que l'épidémie semble contenue malgré la menace toujours des variants. Nous devons maintenir nos efforts, éviter tout relâchement que nous pourrions l'ont payé très cher, dit le porte-parole du gouvernement. Au niveau mondial, l'OMS constate également un ralentissement avec une baisse du nombre de contaminations et du nombre de décès. La vaccination, les choses bougent du côté de l'Europe qui vient de conclure un contrat avec Moderna pour acquérir 300 millions de doses supplémentaires. L'Assemblée nationale appelle le gouvernement à mieux prendre en charge les formes graves et longues du Covid. Elle souhaite l'élaboration d'un parcours de soins adapté et l'extension de la prise en charge comme maladie professionnelle. Une résolution en ce sens a été adoptée aujourd'hui à l'unanimité. Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille en garde à vue, entendu dans le cadre d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics, affaire qui lui avait valu déjà hier une perquisition de son domicile. Et puis une première médicale en France, un bébé est né à l'hôpital Foch de Suresnes après une greffe d'utérus. Sa maman a pu bénéficier d'un don de sa propre mère.
Oui, histoire absolument incroyable.
On
merci Isabelle.
19h.
On en parlera à 19h. Avec plaisir, on vous retrouve tout à l'heure pour le Grand Journal à 19h. Un coup d'œil au temps avec Anissa Haddadi qui nous a retrouvés. Une journée plus humide demain. En attendant, je le répète, hein, parce que ça fait plaisir, le beau
temps
du week-end.
Ce week-end. Donc, oui, demain, nous avons une journée effectivement plus humide avec le passage d'une perturbation qui va toucher d'abord le nord-ouest demain matin. Et puis au fil des heures, cette perturbation, elle va avancer tout doucement. Il pleut donc de la Gironde jusqu'aux frontières belges avec des pluies assez fortes sur le centre-Val de Loire demain où des coups de tonnerre ne sont pas exclus. Le vent, il souffle sur les trois quarts du pays. C'est le vent du sud hein, qui va toucher quasiment toutes les régions demain. Il n'y a finalement que la façade est où le temps restera printanier, ensoleillé et doux. Attention demain matin aux nuages bas. De nombreux brouillards, notamment sur l'Alsace et le Val-de-Saône demain matin. Les températures, elles sont stationnaires, ça ne bouge pas, c'est comme aujourd'hui.
Bon, bah,
0
formidable.
À 11 degrés demain matin.
Ça veut dire qu'il va faire beau et chaud.
Et 10 à 21 degrés dans l'après-midi, on aura 21 degrés du côté de Pau. C'est encore dans le sud-ouest et où
bah,
les températures seront les plus chaudes.
On n'habite pas à Pau. Merci. Merci Anissa, on se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bûcher.
18h32, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien, bonsoir
Louis
tout le monde.
Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Et Henri Vernet, ravi de vous accueillir Henri. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle. On en parle donc ce soir car c'est une petite musique qui monte depuis plusieurs semaines. Et voilà qu'un sondage IFOP nous dit maintenant que 13% des Français se disent prêts à voter pour le polémiste s'il se présente. Pour l'instant, il maintient le mystère, mais en coulisses, il préparerait, dit-on, le terrain et ses soutiens. Je vous propose d'écouter cet échange pris sur le vif entre Alain Duhamel, Éric Zemmour et Anaïs Bouton, la présentatrice de Zemmour et Nolo sur Paris Première. C'était il y a quelques jours.
Je ne dis pas Éric Zemmour va être candidat. Je dis il y a des gens qui ont envie qu'Éric Zemmour soit candidat.
C'est pas ici aujourd'hui que je vais le dire, mais j'écoute l'analyse. C'est pas une réponse que je vais donner là maintenant.
Alors on va parler des intentions de vote. 13% finalement, ça n'est pas si important. On va expliquer pourquoi. D'abord, est-ce que vous y croyez vous, à Éric Zemmour candidat à la présidentielle, Catherine Ney? Pas du tout.
Pas du tout. Non, enfin. Je pense que vous savez, il est peut-être un peu guetté par l'ubris. C'est quelqu'un qui est typiquement un soliste qui parle, qui a un corps de doctrine, qui ne fait pas une politique, qui a réussi une chose assez étonnante, c'est que de faire passer l'émission le soir sur CNews de 80 000 auditeurs à multiplier par 10.
Oui.
Donc c'est une attraction. C'est quelqu'un... Alors vous savez, quand vous êtes célèbre et que vous allez signer vos livres et tout ça, les gens vous disent « Ah, monsieur Zemmour, là, vous dites des choses que les autres ne disent pas. Tiens, vous devrez vous présenter. » Alors, évidemment, ça donne envie, on peut laisser le mystère. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Parce qu'à partir du moment où il est candidat, il faut animer une équipe, ce qu'il n'a jamais fait.
Oui, mais c'est l'ambition du pouvoir, vous savez, il n'y a pas toujours de rationalité.
Ben, oui, mais enfin, d'abord, alors les choses pratiques se posent quand même. Il faut d'abord une équipe, il faut un programme, et énoncer des choses sur lesquelles on est contre, déplorer que la France est en déclin, enfin, tout ce qui est aujourd'hui son patrimoine culturel. Après, eh bien, il faut le traduire en programme.
Alors, on va en parler. Henri Vernet, d'abord, vous y croyez, vous, ou ça va faire pchit, cette histoire-là?
Je pense que ça fera pchit, parce que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment envie et qu'il ait envie d'aller au bout. Maintenant, clairement, on l'entendait d'ailleurs dans cet extrait, il est content qu'on y pense pour lui.
Ça
peut compter, parce que qui sait si à un moment... Quand tout le monde vous pousse comme ça, quand vous vous sentez, tellement aimé, tellement demandé, tellement sollicité, alors certes par un camp bien précis, par des personnalité bien précise, bien individualisée. Néanmoins, ça peut vous griser, ça peut vous monter à la tête, et puis pourquoi pas
on cède à la pression affectueuse.
Exactement, voilà. Exactement. On se sent comme ça d'un seul coup un candidat, pourquoi pas, tout à fait crédible. Après tout, c'est vrai que on est dans un, comment dire, depuis quelques années, de toute façon, il y a de telles surprises, un paysage politique est tellement chamboulé, des personnalités qui arrivent comme ça, bon, on va pas se reciter, Trump, Bolsonaro, Salvini en Italie, des gens qui viennent un petit peu, en tout cas, hors du système, ce qui est moins le cas d'un Salvini. Ce genre d'aventure, après tout, pourrait se tenter. Est-ce qu'un Zemmour qui a ce parcours, alors je suis tout à fait d'accord avec Catherine, c'est qu'il y perdrait beaucoup dans son style de vie, dans la manière dont,
mais
dont
c'est
il est positionné.
Mais c'est vrai qu'il est un candidat issu de la société civile,
de la
plutôt des camps des populistes, est en
c'est
train
ça,
de monter un peu
Sex Machina
partout,
qui viendrait comme ça.
En Europe. Alors, Louis Dragnel, je vous donne la parole, mais j'ajoute simplement sur les intentions de vote, ça vaut ce que ça vaut, un sondage à l'instant T, on connaît la chanson. Jérôme Fourquet ajoute tout de même qu'il se situe, en fait, Éric Zemmour, 13%, ça peut paraître important, mais il se situe en fait au même niveau que Jean-Marie Bigard,
c'est tout dire.
Et un peu plus haut que Michel Onfray, mais beaucoup plus bas que le général Pierre de Villiers, qui est tout de même à 20%.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que ça montre vraiment que quelqu'un peut avoir un public dans les médias, peut écrire des livres et qu'il puisse être bien acheté. Mais c'est une chose d'avoir un public, c'en est une autre, en fait, d'avoir des électeurs.
Oui.
Parce qu'effectivement, et c'est là où je rejoins l'analyse de Catherine Ney, c'est qu'une fois qu'on a un public, on fait des belles audiences, qu'on peut s'exprimer de manière très libre, c'en est une autre ensuite de faire rentrer dans la réalité, dans le concret, dans un programme. C'est très difficile en fait de faire un programme parce qu'il y a des contraintes législatives, il faut absolument réussir à rassembler. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ceux qui ont remporté la campagne présidentielle sont toujours des gens qui ont essayé de rassembler. Et aujourd'hui, on voit bien qu'Éric Zemmour rassemble une partie, un camp très précis, bien défini. Mais je ne vois pas une ambition d'essayer d'élargir encore plus le spectre et de s'élargir à d'autres électeurs.
En tout cas, il pousse une idéologie. Il participe à une petite musique. Vous parliez de ses audiences tout à l'heure, qui vont plutôt dans le sens du Rassemblement national. De ce point de vue-là, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, à défaut d'être lui-même candidat, il a envie quand même de jouer un rôle, Éric Zemmour.
Parce qu'on n'est pas forcément candidat pour gagner. Donc, je suis votre raisonnement, c'est qu'en effet, ce n'est pas un candidat rassembleur et donc il est trop clivant pour accéder, ne serait-ce qu'à, enfin, ne serait-ce que pour accéder au deuxième tour. En revanche, il peut porter un débat, il peut porter des idées. En quelque sorte, c'est un peu un Steve Bannon de la scène politique française. Et donc, là-dessus, il sera suivi, il sera agitateur. Et puis, à la fin, de toute façon, ce sera tout bénéfice pour lui. Parce que même s'il ne se lance pas dans la course, eh bien, vous parliez de ses succès en librairie, on peut être assuré que dans ce cas-là, il n'aura fait qu'accroître sa notoriété, qu'il aura un petit peu agité le débat. Et donc, son prochain bouquin se vendra encore mieux. Donc, il se sera valorisé en quelque sorte.
Oui, ou on peut plaider le contraire aussi, il se sera grillé.
Réellement, si c'est une vraie candidature, si c'est comme ça, voilà, je laisse passer le temps et puis à un moment je me lance et puis très vite je m'arrête, comme on l'a vu. Bon, là on citait Bigard qui n'est même pas allé dans la course. Mais enfin, on a vu des personnalités, Coluche sur un autre registre il y a des décennies, y aller et puis se retirer quand même beaucoup plus tard. Donc il a le temps quand même de marquer un peu le terrain sans bien sûr se lancer dans une vraie.
Enfin, on lui a fait dire déjà à CNews que s'il était candidat, il n'aurait plus sa tribune à CNews et on lui a fait dire au Figaro qu'il n'aurait plus de tribune.
C'est tout à fait normal.
Alors maintenant, après, il faudrait causer, il faut organiser des réunions, il faut tenir des meetings, il faut avoir des groupes derrière, il faut avoir de l'argent, il faut avoir tout ça. Je veux dire, vous voyez bien que c'est impossible.
Être candidat à la présidentielle, ça gagne moins que de faire de la télé
et des
éditos dans la presse, Louis Dragnel.
Et puis c'est un changement de vie qui est quand même très difficile. C'est-à-dire que là, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que sa vie est simple parce qu'il est menacé, qu'il prend des coups également. Mais en fait, passer dans le monde politique et aller sur le terrain, organiser, structurer une équipe, un programme et tout ça, en fait, c'est très difficile. C'est beaucoup plus compliqué que de s'exprimer pendant une heure tous les soirs ou même d'écrire des livres. Ça n'empêche pas le fait que c'est difficile d'écrire des livres. Mais du coup, la difficulté, elle se trouve quand même aussi ici. Et c'est là où je vous rejoins tout à fait. Je ne sais pas s'il a réellement un intérêt, en fait, même personnel, à y aller. En tout cas, ce qu'on peut juste dire aussi, c'est que son opportunité, c'est que les thèmes qu'il défend, en fait, depuis des années aujourd'hui, sont quand même dans les sujets de préoccupation des Français. Et je pense que c'est ça qui participe à son succès médiatique. Voilà. Mais ça reste encore médiatique et,
oui.
et
c'est la différence. Mais parler à longueur de temps d'affaiblissement de la France, oui. sur tout le monde est d'accord, ne fait pas forcément un programme.
Absolument.
Mais, j'amène un petit bémol quand même à ce que vous dites, c'est-à-dire que son socle de lecteurs, son socle, son public, il l'a toujours eu quand même. Quand on regarde les intentions de vote, il avait été testé en 2015 par exemple, il était à 11%. Il était à peu près pareil. Donc vous avez raison de dire qu'il y a des sujets qui se sont invités aujourd'hui dans le débat public, mais quand même,
il a des médias,
le même socle.
Oui, mais pardon, mais deuxième bémol, je vous suis tout à fait sur le premier, et le deuxième, c'est que vous avez raison, hein, c'est extrêmement difficile une candidature, c'est du monde, c'est de l'argent, c'est des moyens considérables, c'est des structures. Mais justement, l'idée, c'est que s'il y allait, encore une fois, je mets ça de manière totalement hypothétique, et il faudrait qu'il se laisse un petit peu avoir, en quelque sorte, par ses admirateurs ou ses adorateurs. Mais il bénéficierait, l'idée, ce serait que, en quelque sorte, il rassemblerait tous ceux qui, à la droite extrême, au souverainisme extrême, ne veut pas de Marine Le Pen parce qu'il ne croit plus en elle. Donc, il y aurait quoi? Il y aurait les Ménard, il y aurait pourquoi pas les Marion Maréchal. Il y aurait, disons, les camps, les troupes de tous ces personnages-là qui se mettraient au service, que ce soit Zemmour ou que ce soit au final quelqu'un d'autre, mais donc qui pallierait ce qui lui manque actuellement.
Bien. On passe, si vous le voulez bien, au vote anticipé pour la présidentielle. Bonne idée ou pas? En tout cas, ça fait polémique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans un projet de loi, le gouvernement a déposé un amendement destiné à permettre le vote par anticipation, ce qui serait évidemment une première en France. L'idée est de permettre aux Français de voter en amont du jour de l'élection. Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains, disait par exemple ceci à propos de cette proposition. C'était ce matin chez nos confrères de BFM.
Je n'y suis pas favorable. D'abord parce que personne n'a travaillé sur ce sujet. On a découvert cet amendement. Je ne comprends pas très bien comment on peut tester une disposition nouvelle électorale sur une élection présidentielle.
Alors, personne n'est pour, hein, d'ailleurs, que ça va du Rassemblement National à la droite républicaine, aux socialistes, en passant par LFI, personne n'est pour. Pourquoi cet amendement un peu surprise, à votre avis, Catherine Ney, dans ce projet de loi?
Ça, je me demande. Alors, c'est vrai que le président a demandé au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, de réfléchir à une modernisation du vote, peut-être les machines à voter, et peut-être...
Alors, il y a quelqu'un qui en avait parlé, c'est François Bayrou, qui avait réclamé ça depuis longtemps, en demandant le vote par correspondance pour les régionales, et pourquoi pas pour la présidentielle.
Mais c'est d'autres choses.
C'est pas
la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose,
C'est pas du tout la même chose, c'est le vote anticipé. Alors, par exemple, le vote anticipé, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, et le dépouillement s'est fait tardivement, et donc pèse sur ce vote-là, alors que les Américains ne sont pas manchots en matière d'électronique, la fraude, l'idée qu'il y a une fraude pèse encore dans la tête de nombreux Américains.
Mais il n'y a pas eu de fraude, en réalité,
Il n'y a pas eu de fraude, sauf que quand vous votez par anticipation, et ça c'est ce que l'on suspecte chez plusieurs politiques, c'est que les gens qui votent, ils votent bien, ce sont bien eux qui ont voté, mais qui vous dit que il y a une forme de communautarisme qui les ait forcés à voter comme ça, même si on peut dire c'est bien eux, ils ont bien voté. Vous voyez?
Oui, alors...
Donc il y a une suspicion de manipulation. Alors évidemment, le gouvernement voit au contraire l'idée que c'est pour éviter les abstentions, qu'il y a des gens qui veulent partir en vacances les jours où... ça peut être là, mais je veux dire, en tous les cas, ce changement, ça se prépare, ça se discute, on consulte, et là, on ne l'a pas fait.
Alors, je vous donne la parole, messieurs, dans quelques secondes. On marque simplement une pause, un instant, 18h43, et on se retrouve pour parler de cette polémique autour du vote anticipé. Donc, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours la suite du débat des grandes voix du mercredi, Catherine Ney, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. On parle donc de cette polémique suscitée par cet amendement concernant le vote anticipé pour la présidentielle, qui est un peu, c'est vrai, sorti de nulle part. Ce serait d'ailleurs une première en France. L'opposition y est opposée, je le disais juste avant la pause. C'est vrai que ça fait écho à ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a un argument qui revient beaucoup dans la bouche des opposants à ce système. C'est l'idée de dire que les électeurs n'auraient pas forcément toutes les infos s'ils votent avant le jour du scrutin. Et le cas de la dernière élection revient beaucoup avec l'affaire Fillon. Imaginons que les électeurs aient voté, disent les constitutionnalistes, avant les révélations de l'affaire. Eh bien, ça pourrait fausser évidemment leur jugement et donc l'issue du vote. Louis Dragnel.
Je suis assez d'accord avec cet argument de fond parce qu'en fait, le principe, la règle d'une campagne électorale, c'est qu'elle se déroule jusqu'au bout. Et donc, ça suppose aussi que les gens votent à l'issue de cette campagne. Et donc, introduire le fait qu'on puisse voter avant même que le match ne soit pas terminé. Moi, je trouve que ça pose quand même des vraies questions par rapport à ça. Je trouve qu'il y a un deuxième sujet de fond qu'évoquait Catherine tout à l'heure, c'est que penser que pour résoudre l'abstention, typiquement ce genre de mesure de faire voter les gens avant est une solution, moi j'y crois absolument pas, parce que c'est, en fait, si les gens ne votent plus, c'est parce qu'ils se désintéressent de la politique, parce qu'ils considèrent, pour plein de raisons, mais c'est pas pour une question de technique. Et considérer que les gens qui partent en week-end pourraient venir un peu plus tôt, honnêtement, ça concerne assez peu de gens. Donc je trouve que cet argument, j'ai du mal à l'entendre.
Alors, je vais poser la question à l'inverse. Henri Vernet, ça fait quand même des décennies que notre système électoral pour la présidentielle n'a pas évolué. Est-ce qu'un peu de modernité, ça serait pas bienvenu?
Mais
quand
si, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'en plus, moi, je suis pas trop d'accord avec les arguments contre. Sauf que, bon, l'affaire Fillon, en l'occurrence, c'était bien plus de 6 mois avant le scrutin. Là, on parle, je crois, de 6 jours, sauf erreur, dans l'amendement.
Une grosse semaine,
J'étais une grosse semaine. J'étais aux États-Unis pour la couverture des élections il y a 3 mois. Et justement, j'ai vu beaucoup les gens voter dans différentes villes, hein, Détroit, Pittsburgh, etc. Et à chaque fois, j'étais frappé, justement, pourquoi est-ce qu'ils venaient en avance, les gens? Alors, il faut dire que ce scrutin, bien sûr, il était exceptionnel, mais justement, ils venaient parce qu'ils voulaient être sûrs de leur vote. Ils voulaient être sûrs que leur vote serait pris en considération. Plus encore que par correspondance. Parce que certains se disaient, oui, mais enfin, correspondance, finalement, on n'est pas très sûr où va atterrir le bulletin. Mais je trouve que les deux sont des bonnes idées. Je trouve que pour les municipales, ça avait été en effet évoqué, porté par Éric Bayrou, ça avait été écarté de manière beaucoup trop leste.
Oui.
Parce qu'en France, on est d'un conservatisme mais exceptionnel.
Oui.
On n'aime pas toucher à nos traditions. Aux États-Unis, par parenthèse d'ailleurs, ça existe parce que, tout simplement, comme ils votent les jours de semaine, il y avait cette idée que parfois des patrons pourraient ne pas laisser leurs employés sur leurs heures de travail aller voter. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas en France, puisqu'on vote un dimanche. Mais il n'empêche, c'est une façon quand même de booster le vote. Alors, je suis d'accord, en revanche, avec vous sur le fait que sur l'abstention, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment d'abord la présidentielle et l'élection et le scrutin.
En tout cas, ça ne peut pas faire de mal à l'abstention.
Ça ne peut pas faire de mal. Et on a tout imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? Par exemple, dans le rapport Bartolone, il y a quelques années, c'était le vote obligatoire. Voilà, ça, on aime bien. Dès qu'il faut rendre quelque chose obligatoire, ça, on y va. Non, là, je pense que toute initiative est intéressante. Celle-là est intéressante. Elle a ses imperfections, je suis bien d'accord. Mais c'est quelque chose à considérer. En revanche, la méthode est déplorable.
C'est
voilà.
La méthode est problématique. Personne ne l'a vu venir, il n'y a pas eu de débat. Mais c'est vrai que dans une société du tout numérique, de la mobilité extrême, qu'on soit obligé d'aller voter comme ça se passait il y a 40 ans, le dimanche, entre 9h et 20h. Est-ce que ce n'est pas un peu dépassé comme système?
Justement, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, Julien, parce que typiquement, un des reproches qui est fait aujourd'hui au gouvernement sur ce texte-là, c'est que, en fait, le gouvernement ne le fait pas au nom de bonnes raisons louables que vous venez de citer à l'instant, mais parce qu'en fait, ça favoriserait le vote urbain, puisque les gens qui ont envie de bouger, les gens qui ont envie de partir en week-end, sont essentiellement les habitants des villes et pas des communes rurales. Et donc, on sait bien que l'électorat d'Emmanuel Macron...
Dans les communes rurales, parfois, faut faire 20 km pour aller voter au bureau de vote.
Et
donc, on se dit, à quoi bon? Alors que si on peut voter sur son ordinateur, peut-être ça favoriserait un petit peu.
Mais de ce que j'ai compris quand même, ça favoriserait plutôt le vote urbain de personnes, justement, qui préfèrent bouger, voyager, partir en week-end. Et ça n'impacterait pas beaucoup le vote rural.
L'électorat marcheur, quoi, pour être clair.
Non, mais vous voyez, dans l'élection américaine, où on dit, où il y a une suspicion de manipulation, on s'est aperçu que non, les gens avaient vraiment voté. Mais bon, on peut penser que ceux qui ont voté en avance, qui voulaient vraiment voter, ils voulaient vraiment dégommer Trump. Bon. Et ce qui était curieux, c'est qu'au moment où il y avait les dépouillements, eh bien, comme par extraordinaire, mais 90-19%, c'était pour Biden. Bon, alors peut-être que leur intention était réelle, et sûrement même, vu le contexte. Mais imaginez une élection où des gens votent par avance et que l'on voit que, comme par extraordinaire, ils votent tous dans un même sens et pour le même, alors là, et c'est possible, parce qu'il peut y avoir des votes communautaires, il peut y avoir des tas de choses, on n'est pas habitué à ça.
Hein. Non, mais justement,
et donc,
il faut peut-être changer les habitudes.
C'est un danger, il faut faire attention.
Bernard Cazeneuve, qui n'est pas le dernier pour critiquer le gouvernement, ancien ministre de l'Intérieur notamment, a dit « Le vote par anticipation, avec beaucoup de malice, pour l'élection présidentielle, voilà ce que le goût de la disruption parvient à produire de plus singulier. On pourrait aussi dépouiller à mesure que les citoyens votent pour gagner du temps et proclamer vite les résultats. » Bon, il y a beaucoup d'ironie là-dedans, mais c'est vrai que personne n'est pour, à part la majorité.
Et encore.
Mais parce que, là, encore une fois, la méthode a choqué. Sur le... oui. Parce que, par exemple, j'entendais dans le même parti que Cazeneuve, j'entendais un Patrick Kanner, le sénateur du Nord, oui. qui, lui, sur le fond, était plutôt favorable. Mais en effet, il a été choqué par la méthode.
Par la méthode.
Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit quand même d'un enjeu essentiel. Une élection, c'est l'exercice démocratique par excellence, et a fortiori la présidentielle qui
surtout
est la clé de voûte.
On aurait pu voilà. commencer par les régionales. Bon,
mais exactement,
là, c'est tout de
exactement.
Suite la présidentielle.
Et en revanche, encore une fois, moi, je trouve que se poser pour les régionales la question du vote par correspondance, évidemment, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une semaine entre les deux tours, mais quand même, ou du vote par machine, ou en tout cas d'un vote anticipé pour les régionales, ça aurait été bien d'expérimenter. Il ne faut pas hésiter à expérimenter. Donc tout le monde est contre parce que la méthode, la légèreté avec laquelle a été traité comme ça par un amendement, quelque chose d'aussi fondamental, c'est vrai que c'était
bon,
plus
tout le monde est oui. d'accord sur
ça,
la méthode.
Et ça, c'est le problème.
Je voudrais qu'on dise un petit mot de la crise sanitaire pour terminer. Un conseil de défense, vous avez, s'est tenu aujourd'hui. On en a presque pas entendu parler, d'ailleurs, à la différence de ces dernières semaines. Statu quo pour l'instant, l'exécutif tient bon donc sur sa stratégie de non-confinement et surtout les chiffres pour l'instant sont plutôt encourageants. Le nombre de contaminations recule de 10% en une semaine à moins de 18 000 cas chaque jour. On était au-dessus de 23 000 il y a encore quelques jours. Le nombre de lits occupés à l'hôpital baisse également et le fameux indicateur R est à 0,96. Est-ce que les scientifiques se sont trompés, Louis Dragnel? Tous ces médecins qui nous annonçaient un déluge et une vague de contamination, d'abord après Noël, on s'en souvient, puis après le Nouvel An, et puis pour la fin février. Alors, il faut rester prudent, ça n'est pas terminé, mais est-ce qu'ils se sont trompés?
Alors, moi, je n'ai pas de capacité, parce que je n'ai pas cette connaissance médicale. Ce qu'on peut observer, c'est que la médecine, en fait, découvre aussi, apprend en marchant. Donc elle découvre ce virus, elle fait des projections, des modélisations.
Un petit jeu de mots dans ce que vous venez de dire.
Exactement.
Hein et donc en marchant.
Ouais, mais c'est le cas. En plus, c'est la réalité. Et on voit bien aussi, souvenez-vous, juste avant, vous l'évoquiez, les vacances de Noël, toutes les projections qui étaient faites et qui étaient soumises à Emmanuel Macron, c'était que malgré le confinement léger que nous avons vécu, eh bien, il y aurait une explosion, une saturation des services de réanimation. En fait, cette saturation ne s'est pas produite. Donc on voit bien qu'un certain nombre de paramètres qui sont mis dans les calculs des scientifiques sont pas forcément très fiables. On nous avait d'ailleurs expliqué il y a quelques mois que la vague de froid favoriserait les contaminations. Aujourd'hui, il y a certaines études qui expliquent...
Qui montrent l'inverse.
Le contraire. Moi, ce que je trouve juste intéressant dans la séquence, c'est que dans la première partie de l'épidémie, Emmanuel Macron se mettait dans la main des scientifiques. Et depuis quelques semaines, eh bien, c'est le politique qui a repris les choses en main, et c'est sain. C'est-à-dire que c'est aux politiques de décider ça, et c'est pas aux sanitaires et aux médecins.
La ligne de crête est ténue, comme on dit, mais Emmanuel Macron est peut-être en train de gagner son pari,
Catherine. Oui, moi j'ai regardé par... Il y a eu trois grandes pandémies de grippe dans le siècle avant, c'est-à-dire la grippe espagnole, dont tout le monde a parlé, 100 millions de morts et tout ça. Ça a duré de 1918 à 1919, il y a eu une première vague, une deuxième beaucoup plus mortelle, une troisième, et ça s'est arrêté. Oui. Ça a duré 2 ans.
Oui.
Après, il y a eu la grippe asiatique, il y a 57-58. Mmh, mmh. Ça a été pareil. Les journaux n'en parlaient pas, parce qu'à l'époque, en France, il y a eu à peu près 40 000 morts, mais la mort était pas... On n'en parlait pas dans les journaux, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, c'était une autre période. Eh bien, ça a été pareil.
Oui.
Il y a une première vague, modérée, une deuxième vague,
oui.
et puis ça s'est arrêté, 2 ans. Et l'autre grippe, où là, il y a eu 40 000 morts en France.
Sauf que depuis, Catherine, on a les vaccins maintenant.
C'est-à-dire oui, mais d'accord,
que dans
mais
deux
je vais
ans,
vous dire, une grippe, une pandémie de grippe, à chaque fois, ça dure 2 ans. Alors, on peut dire, d'une certaine manière, je ne sais pas, que cette grippe-là, cette pandémie, ce Covid, elle va disparaître peu à peu à la fin de l'année. Ça devrait durer deux ans. Comparaison n'est pas raison, mais moi ça m'a frappé
c'est
que
vrai.
Ça dure 2 ans.
Il y a d'ailleurs des choses assez incroyables qui se passent sur cette pandémie. D'abord, le cas au niveau mondial, le nombre de cas a diminué de 16%, ce qui est assez notable. Et il y a ce qui se passe en Inde qui est assez spectaculaire, où on observe un recul du nombre de contaminations, alors qu'il n'y a quasiment pas de restrictions là-bas. Il n'y a pas de vaccin non plus. On est aujourd'hui à 12 000 cas par jour en Inde. On était à 100 000 il y a quelques semaines. Même les scientifiques ne comprennent pas. Il y a quand même une part de mystère dans cette affaire-là.
Oui, mais complètement, bien sûr. Hein. Ces mystères nous dépassent pour le coup, et personne ne se donne l'air de les organiser. Ce serait bien dangereux. Quoique, c'est vrai que là, on demandait est-ce que les médecins se sont trompés. Ce qui est certain, je ne sais pas s'ils se sont trompés, mais ce qui est clair, en effet, c'est que les politiques leur ont cloué le bec, maintenant, temporairement. Et peut-être que les médecins, le scientifique, reprendra plus de terrain, parce qu'en effet, comme vous le dites, il y a beaucoup de mystères. Tout à l'heure, je lisais sur le site de mon journal, Le Parisien, comment dire, les scénarios qui existent encore. Attention, il s'agit de scénarios. Et donc, ils disent absolument que ce n'a rien de prédictif, que ça dépend de tellement de critères, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le nombre de paramètres qui sont purement sanitaires, épidémiologistes, mais qui sont également, qui tiennent au climat, qui tiennent au comportement, et oui. donc aux décisions politiques. Donc, par exemple, en France, à celle de ne pas confiner, alors que quand on voit ce que font tous nos voisins, l'Allemagne qui est en train de se barricader en cherchant une stratégie de zéro Covid, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc, chacun y va de sa stratégie. Donc, on verra bien à la fin quelle aura été la décision, le pari politique, disons, le plus payant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec tous ces paramètres, il est très difficile d'affirmer quoi que ce soit. Et là, donc, dans l'article que je citais, on voit qu'en gros, en fonction des scénarios, malheureusement, tout paraît encore possible. Le meilleur, comme difficulté, et avec une échéance qui serait fin février, début mars, voire avril. Donc, il faut peut-être attendre un petit peu avant d'être vraiment
soulagé. On l'espère pas.
Non, bien sûr que non. Non, mais encore une fois, le meilleur est aussi possible.
Non, on l'espère pas. La Une du Parisien demain, vous êtes déjà en capacité de nous la donner en
exclusivité?
Pas encore,
on est en train de regarder.
On suivra ça demain matin au réveil. Merci en tout cas. Vous revenez quand vous voulez, mon cher Henri.
Volontiers.
Merci à vous. Merci Louis.
Merci
à tous les trois, Catherine Ney, d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h57, restez avec nous dans quelques secondes. Le journal, 19h, toute l'info et le grand débat du Club des Idées. On parlera du pouvoir de la philosophie ce soir. La philo peut-elle nous sauver? Vous comprendrez pourquoi tout de suite.